Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et chaque semaine, je t'aide à construire pas à pas ton activité indépendante en partant à la rencontre de mes pairs. Et cette semaine, on se concentre sur un point de passage qu'on a tous traversé et qui reviendra de manière récurrente dans chacune de nos activités. La construction d'une offre. C'est souvent un moment marquant puisque nos offres définissent tant de choses dans notre quotidien d'indépendant. Ça définit notre marketing, nos échanges avec nos clients, la teneur de nos missions, notre capacité à toucher de nouveaux prospects et plein d'autres choses. Une offre bien pensée peut faire une énorme différence sur notre business. Et pourtant, j'ai l'impression que beaucoup trop de personnes ne prennent pas le temps d'y réfléchir avec la profondeur nécessaire et se contentent de proposer la même chose que ce qu'ils faisaient dans leur ancienne vie de salarié ou d'étudiant ou d'alternant, ou alors la même chose qu'un freelance avec le même métier qu'eux qu'ils ont croisé sur Internet ou sur une plateforme de freelance. Et pour parler de ce sujet, j'ai le grand plaisir d'accueillir mon ami Hugo Bételou de l'autre côté du micro. Et ce qui est un peu drôle, c'est que, sans le savoir, tu connais déjà Hugo, puisque c'est lui qui a créé le jingle musical que t'écoutes juste maintenant pour le podcast quand je l'ai lancé en 2019. Encore une fois, merci Hugo pour ton travail là-dessus. La première fois que j'ai rencontré Hugo, c'était dans les couloirs qui séparaient nos 2 agences respectives pendant nos études. Lui dans la pub et moi dans le branding. Depuis ce moment, on se suit de près, on partage une vraie passion ensemble pour nos différents projets. En tant qu'indépendant, Hugo est consultant UX, mais il a aussi récemment cofondé un studio de production. Mais le sujet dont on parle dans cet épisode, c'est une offre qu'il a récemment conçue pour son activité d'UX, qu'il a nommée The Monday Sprint. Une journée pour valider votre concept et limiter les risques d'échecs. Et du coup, dans notre échange, il nous explique toute sa réflexion derrière la création de cette nouvelle offre, les résultats qu'il a eus, et plus globalement, sa philosophie face aux différentes offres qu'il conçoit pour lui et aussi pour ses clients. Je te laisse te plonger dans la discussion et on se retrouve tous les deux à la fin pour un petit débrief. Belle écoute. Bienvenue sur Young, Wild and Freelance, Hugo.
Salut Thomas et merci pour l'invitation.
Mais avec plaisir. Je suis trop content qu'on prenne ce temps pour discuter. On se connaît depuis pas mal de temps maintenant et je crois qu'on attendait, en tout cas moi j'attendais le bon moment pour toi, pour t'inviter. J'ai envie de t'inviter depuis le début, mais j'ai l'impression que maintenant c'est le bon moment et on va avoir une discussion super chouette, donc je suis trop content de pouvoir t'accueillir.
Eh ben parfait, je pense que si ça devait se faire maintenant, c'est que c'est le bon moment.
Ouais, grave. On va rentrer direct dans toutes les choses dont on voulait parler ensemble et dont je voulais parler avec toi. Mais juste avant ça, la petite question rituelle comme d'habitude, c'est comment et surtout pourquoi est-ce que tu es devenu indépendant ?
Alors, sur le comment, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de monde à mon avis, c'est-à-dire que je me suis lancé en créant une auto-entreprise de manière très pragmatique. Et puis j'y suis allé. Après, effectivement, c'est plutôt le pourquoi qui est intéressant à mon avis. Et là, à ce niveau-là, c'est plus le côté la liberté de pouvoir à la fois choisir ses projets, à la fois aussi la possibilité de choisir ses moments de rush ou au contraire se dire qu'on se détache de ça pour un temps et on peut faire autre chose. Donc, je pense que c'est essentiellement pour la liberté et la flexibilité que ça m'offre. Et puis, comme je suis indépendant dans le digital, du coup, j'ai aussi la possibilité de travailler de partout. Alors là, avec le confinement, c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, dans l'idée, ouais. C'est aussi pour ça que je l'ai fait. C'est pour pouvoir, alors pas forcément voyager tous les quatre matins, mais en tout cas, avoir cette flexibilité-là d'un point de vue spatial aussi.
Parce que ce que moi je sais, mais que les gens qui écoutent savent pas, c'est que c'est la deuxième fois entre guillemets où t'es freelance. T'avais fait une tentative, c'était pas vraiment une tentative parce que ça s'est hyper bien passé, mais une lancée juste après tes études, et après t'étais reparti travailler en agence avec un de tes anciens profs, il me semble, avant de revenir ensuite. Je crois que c'était 3 ans après que t'es revenu en tant qu'indépendant.
Ouais, exactement. En fait, dès le départ, je sentais que. Mais c'est rigolo parce que je crois qu'à l'époque, tu étais un peu dans la même situation. Et en fait, toi, pour le coup, tu y es allé et tu n'as pas changé de voie, entre guillemets. Enfin, tu n'as pas eu. Voilà,
je suis pas revenu sur l'agence.
Je suis pas revenu sur la chose en question. Mais effectivement, moi, j'ai fait un peu un va-et-vient en commençant, en me disant justement que c'était pour ces raisons-là que je voulais être indépendant. Et en fait, très vite, dans les premières missions que j'ai eues, il y en a une qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et qui était extrêmement stimulante. Et en fait, effectivement, je travaillais du coup pour une agence. Et à ce moment-là, en fait, on s'est dit toutes les personnes qui étaient autour de la table, on s'est dit tiens, il y a peut-être une opportunité de construire un truc plus grand. Et du coup, c'est là où je me suis laissé embarquer dans cette aventure-là. On m'a proposé effectivement un CDI. Et du coup, là, j'ai embarqué pour 3 ans et demi. Et effectivement, je regrette pas parce que ça m'a fait clairement progresser de toutes parts. Et je pense que sans cette expérience-là, à mon avis, je serais pas au même niveau aujourd'hui. En tout cas, je serais pas en capacité de proposer les mêmes services, les mêmes expertises. Mmh. Et donc, du coup, je trouve que c'est un passage qui a été extrêmement intéressant. Et maintenant, ça fait du coup 1 an et demi que je suis à nouveau consultant. Et en fait, je regrette pas du tout parce que j'ai pu plus rapidement, j'ai l'impression, accéder à des missions qui sont bien plus stimulantes, bien plus challengeantes aussi, et avec des problématiques qui sont vraiment chouettes,
ouais. Quoi. Ouais, c'est hyper intéressant, hein, parce que justement, une de mes réflexions, c'est je me demandais si tu devais tout recommencer, est-ce que tu repasserais par là? Mais c'est cool de voir ce double truc parce que je pense que c'est une question que beaucoup de personnes ont au début. Est-ce que j'y vais direct après mes études? Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais j'avais fait beaucoup d'alternance avant. Et de toute façon, toi aussi, c'est un truc que tu avais fait. Tu avais eu beaucoup d'expérience pro avant de te lancer, avant la fin de tes études. Ouais. Mais je me demandais, ouais, parce que tu peux avoir cette réflexion de te dire j'ai envie d'y aller direct et de me former, entre guillemets, sur le tas. Mais c'est vrai que ce passage agence comme toi, tu as eu, je le voyais même dans nos échanges et ainsi de suite. Genre, j'avais l'impression que tu travaillais sur des trucs hyper pointus, t'as vraiment développé ton expertise en faisant ça, quoi.
Ouais, bah c'est en fait j'aurais tendance à dire naturellement s'il fallait que je refasse enfin s'il fallait que je retourne en arrière je pense que je referais la même chose, peut-être pas dans les mêmes conditions, mais je referais grosso modo le même parcours. Mais en fait tout dépend finalement le contexte dans lequel les indépendants qui sortent d'études travaillent. C'est-à-dire que je pense que ça dépend aussi beaucoup de qui tu t'entoures. Est-ce que tu intègres vraiment les équipes de ton client quand tu es indépendant, tu vois, vraiment en mode consultant où où t'es limite en régie chez le client, etc. Moi, je pense que c'est ça qui, quelles que soient finalement les modalités administratives, je pense que c'est plutôt ça qui compte. C'est-à-dire que si j'avais fait le même travail en étant chez différents clients, en intégrant des équipes et en apprenant surtout des autres, et notamment de personnes plus seniors, je pense que en fait, ça m'aurait très bien convenu aussi. Mais j'ai choisi ce parcours-là d'aller en agence. Donc j'aurais tendance à dire, pour ceux qui démarrent, de faire ses classes dans une agence ou dans le conseil, mais en tout cas, peu importe finalement la forme, mais avec des gens plus seniors qui peuvent finalement te faire gagner beaucoup de temps dans l'apprentissage d'expertise, de compétences, etc. Et en même temps, je me dis, pourquoi attendre? C'est possible, à mon avis, d'aller aussi vite en tant qu'indépendant. On peut peut-être se casser la gueule un peu plus rapidement et du coup apprendre aussi, tu vois. Mais en fait, je pense que c'est vraiment, tout dépend si tu enchaînes les missions de consulting ou de free avec des clients relous qui t'apprennent rien et qui te demandent juste d'exécuter des choses, bah franchement, oui, c'est cool, tu es indépendant, mais c'est pas hyper stimulant, quoi.
Mais tu progresses pas, quoi.
Et tu
Ouais.
progresses pas, tu vois. Alors que si vraiment tu intègres des équipes, et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment bien choisir ses missions, ou en tout cas, si tu les, si t'es, comment dire, je sais que c'est un sujet que tu abordes pas mal, mais si tu crées le contexte pour avoir des missions qui te conviennent dans la manière dont c'est organisé, etc., je pense que tu peux vachement plus apprendre, quoi.
Ouais, parce que c'est vrai que moi, du coup, ce que je retiens de ce que tu dis là, c'est de toujours rechercher des opportunités de progresser dans ton activité, dans ton métier, dans tes compétences, dans ton savoir-faire, ton savoir-être. Et qu'effectivement, comme tu le dis, on peut faire ça en rejoignant en tant que salarié une agence ou un truc comme ça pour nos métiers, que ce soit toi sur l'UX ou moi à l'époque sur de la stratégie de marque. Mais aussi, ça peut se passer tout aussi bien en mission en free si tu trouves le bon cadre dans lequel progresser. Et clairement, je pense que ça existe. Tu vois, moi, ça me fait penser à des missions où j'ai bossé sur des compètes en agence et du coup, j'avais d'autres gens autour de moi et on était en équipe et j'ai appris des autres en travaillant avec eux
Ouais,
sur les
clairement.
sujets de compètes. Et clairement, ça aussi, c'est des endroits où tu progresses, entre guillemets, sur le terrain, quoi.
Bah
Donc,
ouais, c'est ça.
ouais, c'est cool de voir sur ce spectre-là de la progression et pas se dire, ça marche que quand tu es en CDI ou pas, on peut
Ouais,
se
non, je
créer
pense
ce
qu'il faut
contexte-là, quoi.
il faut créer le contexte et puis après, voilà, c'est aussi un état d'esprit de dire je suis prêt à progresser parce que finalement, se lancer, c'est pour ça que la question du comment tu t'es lancé, en vrai, c'est un paplard que tu signes et voilà, et tu te dis t'es freelance.
Et voilà,
Si
ouais.
ton objectif c'est d'être freelance, bah en fait il est réalisé en très peu de temps, tu vois, c'est une formalité administrative. Mais sur le pourquoi, effectivement là c'est intéressant, ouais, je trouve. Mais ça dépend, il y a des gens qui sont peut-être pas dans cette optique. Moi j'ai toujours voulu continuer à apprendre au-delà de l'école, au-delà de l'université. Donc du coup je suis toujours dans cette dynamique d'aller sortir de ma zone de confort, etc. Donc oui, j'ai eu comme tout le monde, je pense, des missions un peu chiantes, exécutives, où on te demande juste finalement, on t'achète du temps pour faire quelque chose, et d'autres où on te met dans un contexte où, par exemple, là, en ce moment, j'ai un cas où je suis avec une team produit, il y a un product manager, il y a des devs, on est sur des bons outils qui permettent de gérer tout ça, enfin, on est dans de bonnes conditions, quoi. Et du coup, c'est super
Ouais.
plaisant, quoi. Et ça nous challenge parce qu'on échange, etc. Donc, ouais, je pense que c'est ça ma vision.
Ouais. Bah c'est top parce que tu me fais le lien parfaitement. Un des sujets dont je voulais parler avec toi, c'est cette réflexion que tu as dans ton activité, toi, en tant que UX ou sur les sujets de design thinking et ainsi de suite. Et je pense qu'une des très bonnes manières de chercher à créer un contexte favorable pour nos missions et pour continuer d'apprendre et ainsi de suite, c'est de vraiment prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on va offrir à nos clients, plutôt que de simplement répondre, voilà, il y a quelqu'un qui sort un appel d'offres ou une proposition de mission et il y a trois bullet points et on coche les cases et on travaille. mais vraiment de prendre le temps de se dire j'ai envie de réfléchir à qu'est-ce que je propose, comment ça répond aux problématiques que j'observe chez mes clients et ainsi de suite. Et c'est la démarche que toi, du coup, tu as avec tes clients, mais que tu as eu aussi récemment avec une nouvelle offre que tu as lancée. Et je me suis dit que ce serait un super exercice qu'on reprenne les étapes de cette réflexion-là pour que les gens qui nous écoutent, ils se disent, voilà, moi, j'ai envie de travailler sur une nouvelle offre, une nouvelle manière de proposer ce que je propose et ce que j'ai envie de proposer à mes clients. Par quelle étape est-ce qu'ils peuvent passer pour faire ce travail de réflexion-là?
Ouais. Non, c'est vrai que c'est une réflexion intéressante. Elle est pas, c'est pas simple à mettre en place parce que, en fait, le premier, j'ai envie de dire, la première raison pour laquelle tu vas travailler pour quelqu'un, en tout cas dans l'exercice que j'ai, moi, de la profession de consultant UX et UI, c'est de sortir du livrable et qu'il y ait un truc concret à la fin qui permette au projet d'aboutir, etc. Donc, en fait, si déjà tu coches pas cette case, tu peux pas aller plus loin que juste faire le travail qu'on t'a demandé de faire. Et ça, c'est un truc que je pense qu'il faut bien avoir en tête. Et par contre, je pense qu'avec l'expérience, du coup, tu coches clairement les cases des skills techniques, d'exécution, de gestion de projet, de réflexion stratégique. Tu vois, tu commences à prendre de la hauteur sur les sujets au fur et à mesure du temps, etc., etc. Et une fois que t'es assez confort là-dessus et que tu, finalement, quel que soit le sujet, tu commences à te sentir à l'aise pour, en tout cas, poser une approche et commencer à réfléchir dessus. C'est là, je pense, où tu peux aussi commencer à aller challenger tes clients sur leur manière de faire, leur process en interne, et aller plus loin, les accompagner plus loin et au-delà de la mission qui t'ont confiée. Mais pour ça, du coup, ça mérite d'avoir plusieurs prérequis. Donc, les skills techniques et surtout qu'ils aient confiance en toi pour ça. Et surtout, après, c'est vraiment une question de relation, c'est-à-dire qu'il faut arriver à faire comprendre au client que, en fait, tu vaux plus que juste tes compétences techniques ou ce pourquoi tu as été payé pour la mission, tu vois. Et c'est ça qui prend vachement de temps et c'est ça qui est vachement difficile parce que les gens, ils pensent que, tu sais, les gens te mettent dans des cases, donc ils pensent que tu fais un truc, que, ok, tu le fais bien ou très bien, mais que grosso modo, tu fais pas plus ou tu fais pas autre chose. Ou alors que tu peux pas dépasser ce cadre-là. Et en fait, c'est faux. On est tous capables de proposer autre chose. On est tous capables de challenger un client. Le client, c'est pas celui qui a raison pour tout, quoi. C'est celui qui missionne, mais c'est à mon avis aussi celui qui, s'il a un bon état d'esprit, selon moi, il a envie de se faire challenger pour lui-même aller plus loin, quoi. Et c'est là où je parle de relation.
Ouais, lui-même progresser.
Tu sors de ta zone de confort pour cette mission parce que elle te challenge sur des sujets que tu n'as jamais fait. Mais de l'autre côté, tu as peut-être d'autres missions aussi où tu as envie d'aller challenger ton client pour essayer de le faire progresser et lui montrer, en fait, lui ouvrir les yeux sur le fait de tu n'étais pas du tout en train de partir dans la bonne direction et je peux t'expliquer noir sur blanc pourquoi. Avant d'arriver à ce niveau-là, il faut gagner la confiance, faut faire ses preuves, faut monter pas de blanche. Enfin, c'est pas si simple.
Est-ce que du coup, toi, pour la nouvelle offre que tu as lancée, du coup, qui s'appelle The Monday Sprint, et je t'inviterai à nous raconter un peu ce que c'est après, mais est-ce que tu sentais que, justement, une des raisons que tu lançais ça, c'est « Ok, maintenant, j'ai plus ou moins posé ma légitimité et mon expertise sur mon sujet UX, j'ai mon portfolio, j'ai mon réseau client, les personnes qui soutiennent que, voilà, Hugo, il sait faire ça, il sait très bien le faire. » Et du coup, tu t'es dit « Ok, maintenant, j'ai envie d'innover un peu dans l'approche et proposer quelque chose de nouveau. » Est-ce que c'était ça, du coup, ta réflexion, comme tu nous le partageais là, de se dire « J'ai envie de challenger les gens et trouver quelque chose de neuf ?»
Ouais, alors c'était à la fois pour moi me renouveler un peu et aller découvrir un petit peu plus globalement, tu vois, les approches effectivement de design thinking, ce qui se faisait aussi, etc. Donc du coup, là, je me suis vachement formé là-dessus. Et effectivement, du coup, ça a débouché sur une offre, donc The Monday Sprint. Et effectivement, après, je pense que c'est aussi pour moi une autre manière de d'approcher des clients, de voilà, et en tout cas d'essayer de construire un profil un petit peu plus large pour lequel les gens pourraient penser à moi dans mon réseau ou à l'extérieur de mon réseau. Et donc du coup, pour répondre à ta question, donc The Monday Sprint, c'est une offre de design sprint mais en une journée. Donc évidemment, quand je dis ça, ça veut pas dire que en fait le design sprint créé par Google Ventures, c'est de la merde, en 5 jours c'est trop long. Je suis pas du tout en train de remettre en question ça. parce que ça marche et que les mecs ils ont beaucoup travaillé pour aboutir à cette méthodo. Mais en fait, dans certains sujets où j'ai plus une posture de coach, je me suis rendu compte qu'en fait, en un jour, on pouvait quand même sortir pas mal de choses. En tout cas, pour valider un concept ou valider une approche, valider ouais, une idée. Et du coup, c'est par cette offre-là que je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de tester ces choses-là. Et donc, du coup, j'ai lancé ça. Et du coup, l'idée, c'est de tester un concept, de tester une idée, de tester un livrable pour aller pitcher, pour aller présenter une landing page, pour aller montrer quelques écrans d'une app ou d'un site. Et tout ça, bien préparé. Mais effectivement, ce format-là, c'est une journée. Et c'est plutôt à destination, tu vois, des entrepreneurs qui soit se sont lancés et veulent développer une nouvelle offre ou une nouvelle ou un nouveau service, soit des entrepreneurs qui se lancent et qui savent pas trop par quoi commencer. Et là, la philosophie du coup du design thinking est assez revient assez fort, c'est-à-dire sortir quelque chose tout de suite, même si c'est pas très
Parfait.
abouti, pour pouvoir aller le tester en fait.
Ouais.
Et trouver la place sur le marché, ou alors challenger, ou alors pivoter, tu vois. Et du coup, dans cette idée-là, j'ai commencé à monter cette offre. Et puis, force est de constater qu'elle a été plutôt bien reçue dans les premiers échanges que j'ai eus avec des gens à qui je l'ai présenté, etc. Et en fait, ça a débouché sur pas mal de choses différentes, mais en tout cas, voilà, j'ai créé cette offre-là pour essayer d'étoffer un peu plus tu vois, ma palette de services, ma palette d'offres.
De ce que tu pouvais proposer, quoi, ouais.
Ouais, c'est ça.
Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as justement, j'imagine que tu t'es pas mal nourri de toute cette réflexion de la méthodologie UX, de la méthode design thinking, etc., pour construire ton offre toi-même et t'appliquer ces réflexions à toi-même, notamment ce truc de on lance quelque chose, je vais aller tester, avoir des conversations et voir quel écho ça fait avec des potentiels clients et ainsi de suite et affiner au fur et à mesure. Tu peux nous
Carrément.
parler un peu du coup du process de réflexion que tu as eu sur toi-même pour que les indépendants qui nous écoutent, s'ils veulent s'appliquer aussi ce genre de réflexion pour construire une nouvelle offre, ils peuvent aussi se l'appliquer à eux, quoi.
Bah effectivement, ouais, je me suis carrément appliqué en fait la propre méthode que je vends ou sur laquelle j'accompagne des clients. Et du coup, en fait, au départ, c'était de me dire, bah, j'ai envie de développer d'autres compétences, ou en tout cas des compétences qui sont plus connexes, on va dire. Et là, je me suis dit, tiens, comment ça pourrait se faire? Donc là, je me suis vachement formé, j'ai vachement potassé sur la question du coup du design sprint. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que soit dans mon premier réseau, soit dans mon second réseau, je challengeais des gens sur des concepts ou des plateformes ou des apps, des projets même. Et j'avais une posture de conseil. Et que finalement, au bout d'une heure de discussion avec un ami qui a envie de lancer tel truc, ou une amie qui a envie de lancer son projet, bah, en fait, je sentais en ces personnes-là que j'avais apporté pas mal de valeur. En tout cas, elles étaient assez satisfaites, des réflexions, des brainstorming, des axes de voilà stratégiques ou de positionnement. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Je pourrais peut-être appliquer ça au type de client que j'ai et à travers le design sprint. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de vendre des design sprints de 5 jours, ce qui est extrêmement complexe en fait quand on est indépendant, parce qu'en fait, un design sprint, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez complexe de le réaliser tout seul. C'est-à-dire qu'être à
Ouais.
la fois l'animateur, être à la fois
L'expert qui prend la parole.
être à la fois l'UX qui va commencer à faire les prototypes pendant la semaine, enfin, en fait, c'est pas possible. Donc du coup, je me suis dit comment je pourrais finalement dimensionner le design sprint de base à un format qui serait gérable d'un point de vue, enfin pour les indépendants, tu vois. Et donc c'est là où je me suis dit tiens, on pourrait le faire en une journée. Donc là, je commence à potasser, je vois qu'effectivement il y a des gens qui l'ont déjà testé en une journée, toujours en disant que ça va pas permettre d'aboutir au même travail que sur 5 jours, mais en tout cas ça
Bien
permet
sûr.
déjà de faire avancer les choses. Et du coup, là, j'ai réfléchi à un nom parce que je me suis dit, c'est cool. Le monde du design sprint, c'est quand même un monde où le marketing joue beaucoup. C'est-à-dire que la promesse de base, c'est
Ouais.
que quand même, tu sors un proto en 5 jours. Donc,
Ouais.
philosophiquement, c'est assez disruptif dans l'approche, tu vois. C'est-à-dire que T'as un client, tu dis non, mais en fait, tu peux avoir un proto dans 5 jours. Et là, il te dit non, mais attends, moi, mon cahier des charges, c'est normalement un cahier des charges qui est fait pour un projet qui va durer 6 mois
Ouais.
ou 1 an, tu vois. Et là, tu dis non, en fait, nous, on va le faire en 5 jours, tu vois. Et donc, du coup, dans l'approche, c'est vachement waouh. Wow.
C'est clair.
Donc, du coup,
Et toi, tu dis un
dans cette
jour.
idée-là, je me suis. Et moi, je dis un jour, tu vois. Donc, du coup, c'est encore plus ouf, même s'il faut modérer le propos, comme je dis depuis tout à l'heure.
Bien
Mais
sûr, ouais.
dans cette idée-là, je me suis dit, tiens, il y a quand même beaucoup de marketing là-dedans. Et je me suis dit, tiens, je vais chercher un nom. Et je me suis dit, je sais pas, moi, tu sors d'un week-end, t'es bien frais, tu vois, pour attaquer la semaine. Et pourquoi, du coup, ça serait pas le lundi, tu vois. Et donc, évidemment, on peut le faire n'importe quand. Mais dans le marketing, je me suis dit, tiens, on pourrait appeler ça The Monday Sprint. Et du coup, j'ai commencé en fait à tout simplement tomber une page. Enfin, j'ai commencé à designer finalement ma landing page. Et après, j'ai commencé en fait à solliciter les gens autour de moi, dont toi d'ailleurs, en mode bah tiens, j'ai réfléchi à une offre. Et du coup, voilà, je commence à la marketer, je commence à présenter les
Qu'est-ce que t'en
choses.
penses?
Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi tes feedbacks? Et là, j'ai eu à vraiment pas mal de feedback. Et merci d'ailleurs encore pour les tiens qui étaient assez précieux sur notamment la question du qui, c'est-à-dire à qui est destinée cette offre.
Ouais.
Et là, du coup, j'ai vraiment dû faire un choix parce que tu vois, j'avais par exemple des feedbacks qui me disaient ouais, mais du coup, c'est vraiment pour tout ou c'est juste pour des projets digitaux. D'autres qui me disaient mais du coup, c'est pour quel type de projet? Est-ce que c'est pour des projets qui sont avancés? Est-ce que c'est des projets qui sont en cours de construction. Et du coup, là, j'ai dû faire des choix à un moment donné parce que je me suis dit, à vouloir adresser trop de cibles, bah, du coup, j'adresse plus personne. Et donc,
Ouais.
du coup, là, j'ai fait un choix. Je me suis dit, bah, moi, ce que je sais faire, c'est de l'UX, mais plutôt appliqué au digital. Et du coup, là, je me suis dit, bah, en fait, moi, ce que je vais proposer, c'est soit faire des pitchs de start-up, soit faire quelques écrans d'application, soit faire un premier parcours utilisateur, soit faire une landing page, soit faire quelques écrans designés. Donc, vraiment, pour que ça colle à mon expertise, pour que derrière, quand il y a un Monday Sprint qui est effectué, bah, sur la partie production du prototype, je sois totalement à l'aise de dérouler, tu vois, des écrans en grosso modo une demi-journée et que le client soit content, tu vois, du livrable qui sort, quoi.
Ouais,
Donc voilà.
bah, c'est cool que tu reviennes sur ce truc du pour qui, parce que bon, les gens qui me connaissent un peu et qui écoutent le podcast depuis longtemps savent que c'est un truc qui est très important pour moi, sur lequel j'appuie hyper fort dans ma formation construire ses offres notamment, mais je pense que c'est hyper important en fait. Et j'entends que dans ta réflexion, c'était un truc que tu avais déjà intégré, mais peut-être pas de manière aussi poussée que des fois il faut le faire pour être vraiment sélectif. Seth Godin, il parle notamment de smallest viable audience, la
C'est
plus
ça.
petite audience viable
Ouais.
à qui s'adresser. Et tant qu'on n'est pas ultra précis là-dessus, je pense qu'on peut pas avoir le niveau de copywriting, de connexion sur la rédaction, sur genre vraiment faire une offre sur mesure.
C'est ça.
Et
Et
je pense que c'est hyper important, quoi.
ouais, c'est hyper important. Et en même temps, tu vois, je me dis, est-ce que dans le process, j'étais pas sur la bonne voie? C'est-à-dire qu'au départ, j'ai fait un truc qui était assez ouvert finalement en termes de c'est-à-dire que tout le monde aurait pu plus ou moins se projeter, même en se disant est-ce que je suis la bonne personne, est-ce que j'ai le bon projet pour ça, et du coup c'est grâce aussi au feedback que j'ai eu que j'ai pu affiner, et c'est à ce moment-là que j'ai pu trancher. Alors que si j'avais tranché trop tôt, peut-être que tu vois j'aurais pas eu forcément le même résultat final,
La
tu
même
vois.
chose, ouais.
Et donc du coup il n'y a pas une seule réponse possible, il n'y a pas un seul voyage possible, on va dire. Mais en tout cas,
Ouais.
finalement, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'important, c'était d'aller tester cette offre-là pour voir effectivement comment les gens pouvaient éventuellement
Carrément.
se projeter avec.
Ouais, bah c'est ce que j'allais réappuyer sur ça et j'allais m'essayer à essayer de synthétiser un peu ce que tu as dit sous forme d'étapes. En gros, ce que j'entends dans tout le déroulé de ce que tu as présenté sur ta réflexion de comment tu l'as construit, c'est t'es parti d'une espèce de réflexion de OK, c'est quoi les besoins sur le marché aujourd'hui et qu'est-ce qui est aujourd'hui l'offre ou les choses qu'on utilise pour y répondre. Du coup, il y avait ce truc de faire des prototypes, montrer la viabilité d'un projet et aujourd'hui, la méthode utilisée, c'est design thinking qui est très répandu dans le milieu startup que tu cibles, qui est du coup la méthode utilisée pour faire des protos. Et du coup, en partant de ça, de se dire, OK, bah, là, je vois un besoin et une offre en face. Comment moi, je peux y répondre à ça et créer quelque chose qui prend en compte mes compétences, la manière dont moi, j'ai envie de travailler et qui apporte un twist de nouveauté pour répondre à cette même problématique, mais sous un autre angle, qui du coup t'a amené à réfléchir, à te dire, bah, l'autre angle qui me va pour moi et mes compétences, c'est sur un jour, et du coup, bah, après, t'es passé dans la phase, ok, bah, j'ai cette hypothèse-là, je fais une page sur ton site web, comme tu le disais, ta landing qui présente le truc, et une fois que j'ai mon hypothèse, bah, je vais la tester à la rencontre du marché, à la rencontre de personnes, pour voir qu'est-ce que les gens en pensent, c'est quoi les feedbacks, comment je l'affine au fur et à mesure, jusqu'à trouver la cohérence avec la demande, quoi.
C'est ça.
C'est ça, ouais. Si je synthétise un peu, c'est bien.
Ouais, c'est exactement ça. C'est parfait.
Top. Bah, du coup, pour ceux qui nous écoutent, je vous le répète, l'idée que je retiens de la création de cette offre par Hugo, et c'est ce que je vous invite à faire aussi, c'est mener une observation des clients avec qui vous avez envie de travailler, c'est quoi les besoins et comment ils y répondent aujourd'hui, émettez une hypothèse d'une nouvelle offre et ensuite on va la tester, on discute, on échange, et c'est partir à la rencontre de son marché, quoi. Et c'est central dans la réflexion design thinking, comme tu pourras nous le répéter peut-être, Hugo, de qu'est-ce qu'on fait sur cette phase-là de recherche utilisateur, de test, de discussion et ainsi de suite. C'est un truc qui est central dans cette réflexion, et je pense que en tant que freelance et indépendant, on se l'applique pas assez à nous-mêmes d'avoir ces discussions avec son marché.
Ouais, c'est vrai, et je pense qu'il faut vraiment le faire parce que en fait, on a l'impression qu'on perd du temps, mais en fait, je pense qu'on peut au contraire en gagner, c'est-à-dire que on peut aller plus rapidement à l'objectif qu'on a envie d'atteindre. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. Et je pense qu'il faut aussi prendre du recul sur ça, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à marketer l'offre, à la faire tester, et puis ensuite à la publier, à communiquer un petit peu dessus. Je pense que j'ai eu la bonne posture de garder un peu de recul sur tout ça, en me disant que de toute façon c'est pas ça que je voulais faire chaque jour de ma vie, mais que c'était plus un moyen d'arriver à d'autres choses. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est là où je veux dire qu'il faut garder un peu un esprit d'ouverture sur ce qui va déboucher d'une offre qu'on a envie de monter ou quoi, parce que très concrètement, du coup, j'ai commencé à appliquer cette méthode de design sprint en un jour avec quelques clients, quelques projets, et donc c'est très cool parce que j'ai pu me familiariser avec le programme que j'avais envie de dérouler en une journée, l'adapter, le challenger, donc là vraiment sur le fond. Et pas forcément que sur la com. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a généré en fait d'autres opportunités, parce que j'en ai parlé par exemple à des incubateurs. Et en fait, aujourd'hui, je me retrouve coach UX. Donc une fois par semaine, je consacre 1h30 de mon temps à coacher des startups plus ou moins avancées sur leur parcours utilisateur, etc. Donc on pourrait dire que c'est carrément un format de coaching un peu express, mais qui derrière me permet de tisser des liens avec des startups, tisser des liens avec des incubateurs qui peuvent avoir à un moment donné des besoins qui sont pas forcément réaliser un sprint en un jour ou un vrai sprint, mais plutôt carrément une mission du X sur laquelle je pourrais intervenir.
Plus classique, entre guillemets, quoi.
Voilà, c'est assez classique, mais pour le coup, en fait, plutôt que d'aller penser à quelqu'un d'autre, ils vont penser à moi parce que j'aurais déjà tissé une relation avec eux, parce que je les aurais déjà coachés entre guillemets gratuitement, parce que les interventions par exemple au School Lab que je fais, c'est à titre gratuit. Mais en fait, ce qui est assez ouf, c'est que si ton coaching est bon, derrière, la conversion, elle est facile. Et si je reprends l'exemple du premier coaching que j'ai fait là-bas, la boîte était en mode non, mais c'était trop bien. Attends, nous, il faut qu'on accélère. On a besoin de quelqu'un comme toi sur le sujet. Est-ce que t'es OK, quoi?
Ouais, grave. Mais c'est hyper intéressant. Ça t'offre l'opportunité de te créer un contexte dans lequel tu montres ta valeur et dans lequel tu montres ce que tu es capable de délivrer sans être dans une relation de vente, entre guillemets.
Exactement. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je ne suis pas dans une relation commerciale où j'essaie de faire le good guy parce que je sais que derrière, il y a un intérêt. Là, c'est plus en mode je donne ce que j'ai à donner. Et en fait, les gens, naturellement ou non, décident de la valeur qu'ils en retiennent, quoi. Et pour le coup, c'est assez positif. Et donc ça, je suis très content pour ça. Mais c'est pour ça que je disais, il ne faut pas trop s'attacher, par exemple, aux offres qu'on monte d'une certaine manière. Parce qu'en fait, lorsqu'on communique dessus ou lorsqu'on se donne les moyens d'aller chercher d'autres opportunités pour présenter ce qu'on fait, et ben finalement, ça peut déboucher non pas sur l'offre en question, mais sur d'autres choses annexes, mais qui sont tout aussi cool. Et peut-être qu'un jour, oui, je vendrai des Monday Sprint à gogo, mais limite, un, c'est pas l'objectif. Et deux, c'est surtout, je suis en train de le voir en ce moment, c'est surtout un moyen en fait d'accéder à autre chose qui est hyper stimulant aussi. Et donc, je pense que c'est pour ça que monter des offres, oui, se cantonner à ces offres, non. Tu vois, c'est plus ça la posture que j'aurais, tu vois.
Hyper intéressant. Je voulais rebondir du coup sur ça justement, sur le côté ça t'apporte d'autres choses derrière et que c'est un moyen d'accéder à. Ce que je trouve fort aussi dans ce que tu as fait avec cette offre, c'est que tu l'as en quelque sorte, t'en parlais tout à l'heure, productisé. Tu l'as en gros, tu vois, plutôt que la plupart des indépendants, comment on fait, on communique sur tout ce qui va autour, sur notre expertise et ainsi de suite, ou sur notre offre directement en disant, bah, voilà. Moi, je fais de l'identité visuelle, moi, je fais de la stratégie de marque, etc., etc. Mais on délimite pas les contours, tu vois. Alors que là, c'est hyper intéressant. T'as presque créé comme un produit et ça te permet d'imaginer tout un univers autour, toute une manière de communiquer et ainsi de suite. Et c'est une bonne excuse de parler de ce que tu fais et une bonne manière, je trouve, de avoir une autre manière de communiquer et de marketer. Ça te permet d'approcher, d'intéresser, d'être un peu plus unique. Ça me fait penser à. J'écrivais ça dans un post hier, une petite citation de Gladiator où Maximus dit « Je vais conquérir la foule en leur montrant quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant. » Et je trouve que ça remplit un peu ce rôle-là, ce truc.
Ouais, c'est une citation qui marche bien, effectivement. Non, bien joué. Bien joué pour l'avoir placé. Non, mais c'est très vrai, en fait. C'est très vrai. Et je pense que je vais pas redire tout ce que tu as dit parce que je suis totalement en accord avec ça. Je rajouterais juste que ça met aussi les gens avec qui tu as envie de collaborer ou à qui tu as envie de proposer ça. Ça les met aussi dans une expérience. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est différent. Mais tu les embarques dans une aventure un peu. Surtout que le design sprint, c'est ça aussi. C'est le côté, tu te focuses sur un sujet pendant X temps et normalement, tu vois, tu banalises la semaine, tu prépares le truc en amont. Il y a une pression, il y a un truc qui se crée, tu vois. C'est un peu comme un événement. Tu le prépares beaucoup. Et puis là, quand il y est, t'as, entre guillemets, pas le droit à l'erreur. Enfin, tu as envie de donner le meilleur de toi-même, etc. Et donc, du coup, le fait, effectivement, de marketer ça sous forme de produit, entre guillemets, je trouve ça intéressant parce que ça tout de suite ça met les gens dans une posture psychologique qui est différente d'une relation, tu vois, client presta un peu habituelle, quoi.
Ouais, c'est clair. Et je trouve que, comme tu dis, c'est ça qui est. C'est un axe intéressant, le truc de créer une expérience pour les freelances, je pense, parce que, comme tu dis, on peut très souvent tomber dans ce truc de, OK, il y a un besoin, on va faire un call, puis ensuite, moi, je vais faire mon petit travail de mon côté pour faire un devis et je vais envoyer mon devis. Tu vois, c'est pas une expérience où tu prends vraiment trop de plaisir ou. Enfin, tu vois, c'est assez
Ouais.
classique, entre guillemets. Et je pense que vraiment cette réflexion de comment je crée une expérience autour de proposer ce que j'ai à proposer, de quand on est en train de travailler, l'expérience que le client y vit, et le après aussi,
Et
je
le
pense que
après, ouais.
ça a tout autant de valeur dans la perception que nos clients ont de ce qu'on fait et de ce qu'on apporte, que la qualité du travail qui effectivement est la base de tout, on l'a dit au début de l'épisode. Mais je trouve que c'est une réflexion hyper intéressante qu'on devrait avoir tous pour notre travail.
Ouais, je pense que c'est essentiel de le faire. Alors moi, je suis dans un contexte, enfin dans un secteur, on va dire, qui renforce ça. C'est-à-dire que
Ouais, c'est ta déformation professionnelle.
ouais, c'est un peu la déformation professionnelle. Non, mais il y a d'une certaine, donc je m'applique le truc à moi-même encore une fois. Mais au-delà de ça, le design sprint, c'est aussi donner la capacité aux gens et leur faire prendre conscience qu'ils sont capables de produire des choses eux-mêmes. C'est-à-dire que tu vois, un des grands trucs quand on fait le design sprint, c'est il y a toujours un icebreaker ou un truc du genre qui fait prendre conscience aux gens qui sont capables de dessiner, même enfin tu vois, de dessiner des écrans ou de dessiner une expérience et de l'expliquer sans savoir dessiner, quoi. Et en fait, les gens ont peur de ça parce qu'ils se disent, attends, mais là je suis pas à l'école, genre moi les crayons de couleur et la feuille blanche, c'était il y a bien longtemps, et aujourd'hui je suis là pour bosser, tu vois. Et le fait en fait de montrer aux gens, notamment du coup dans ce cadre-là du design sprint, que ils vont être une partie de la solution et pas juste le commanditaire d'une solution à imaginer, et ben du coup ça les implique vachement, et du coup ils se sentent totalement dans l'expérience, justement. Mais ça, c'est pas simple parce que du coup, il faut vachement évangéliser, il faut acculturer les gens à ces nouvelles pratiques où en fait, effectivement, ils n'ont plus forcément la posture de 100% je suis le commanditaire, mais plutôt ouais, c'est moi qui te brief. Mais en fait, la solution, j'ai bien compris que c'était pas toi qui allais la pondre toute seule, toi freelance indépendant, tu vois. En fait, c'est plutôt on va créer un truc ensemble, et notamment du coup une équipe, un process, etc. Et on va le faire ensemble, tu vois. Et c'est là où le rôle de facilitateur, d'animateur, etc. Je trouve qu'il est vachement inspirant, même dans le cadre d'une relation avec tes clients, quel que soit finalement ton domaine d'expertise.
Ouais, c'est
Tu vois,
clair.
c'est vraiment le côté je t'accompagne, je te guide. En fait, je suis un expert. Je suis freelance, je suis consultant indépendant, mais en fait, j'ai pas forcément toutes les capacités de te produire la solution comme ça, sortie du chapeau, mais plutôt j'ai une capacité à t'accompagner et à faire en sorte que on travaille intelligemment ensemble pour aboutir à une solution versus je vais travailler pour toi, tu vois. C'est plutôt travaillons ensemble versus je travaille pour toi, tu vois.
Ouais, mais mon propre exemple peut illustrer ça pour montrer aussi que c'est pas juste un truc propre à l'UX, comme tu dis, ou propre à seulement les design sprints, mais c'est plus, je pense, une posture qu'on peut tous avoir si ça nous parle, encore une fois, et si on a envie d'avoir cette posture dans nos missions et dans la manière de construire notre méthodologie de travail et notre offre, parce que moi, clairement, c'était quelque chose qui était central à comment je bosse avec mes clients branding, même si là, l'idée pour la suite, pour moi, c'est de faire une pause là-dessus pour me consacrer sur le contenu, la pédagogie pour les freelances et tout. Mais c'est clairement un truc qui était au cœur de ça, de se dire, plutôt que de faire de la strat de marque où je suis dans mon côté, dans mon coin, un peu en chambre, à réfléchir de mon côté, et comme on pourrait le faire à l'agence, tu vois, je suis plutôt en mode, comment est-ce qu'on co-construit quelque chose? Et du coup, je faisais beaucoup d'ateliers et beaucoup de travaux avec les salariés des boîtes. Et du coup, c'est un truc que je portais même dans mon discours qui était bien différenciant face aux agences de base. C'est, en fait, vous connaissez mieux votre segment, votre sujet que moi, mais moi, je vais apporter une méthode qui permettra de faire ressortir l'info de vous, des cofondateurs, des salariés, et qui facilitera le fait que tout le monde soit embarqué aussi dans le fait de, ben, on construit la marque ensemble. Et c'est pas un consultant là qui vient de l'extérieur qui nous dit, ben voilà, maintenant vous allez faire ça, bonne journée, voici la presse, amusez-vous bien, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis en fait, ça diminue aussi la probabilité que le client soit déçu à la fin parce qu'en fait, tu vois, l'effet boîte noire, le consultant boss, il rend ses slides et il se tire. Tu vois, enfin, moi, c'est pas un idéal de travail auquel, enfin, c'est pas l'idéal de travail auquel j'aspire. Et ouais, donc c'est très vrai. C'est très vrai.
Et il y a un autre truc que je notais avec ce que tu disais là de ce côté expérience, où tu disais par rapport aux gens qui dessinent et tout, j'ai l'impression que ça change en gros entre le début de la mission et la fin de la mission, ça change aussi leur croyance sur ce dont eux ils sont capables de faire, et tu leur montres, bah en fait ouais, t'es capable de faire ci, t'es capable de faire ça, et ça je pense que ça nourrit aussi la valeur qu'ils attribuent à ton travail, tu vois, au-delà des protos et au-delà des livrables, c'est waouh, j'ai vécu presque une transformation personnelle. Tony Robbins, il parle souvent de the 4-minute mile, la première fois que quelqu'un a couru un mile, donc c'est l'équivalent de genre 1,6 km ou un truc comme ça. La première fois que quelqu'un a brisé le truc de tu peux courir un mile en 4 minutes, l'année d'après, il y a des centaines de personnes qui ont réussi. Juste parce que, ah, en fait, si c'est possible, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait et tu montres aux gens, genre tu les aides à briser ce truc-là pour eux, quoi. Briser un plafond qui s'autorisait pas à voir.
Carrément, en fait, c'est aussi ça que je remarque, c'est dans toute la philosophie du design sprint et ta posture, tu vois, de facilitateur, c'est de montrer finalement qu'il y a des gens souvent, et d'ailleurs, je pense que ça nous arrive tous à un moment donné, de nous mettre des barrières tu vois, genre, c'est pas possible, ou je vais pas y arriver, ou ben non, mais je suis pas expert là-dedans, donc je peux pas le faire, ou alors, ah non, je suis pas légitime, tu vois, même pour me positionner sur un sujet, et du coup, je suis pas capable de mettre en place une méthode ou un process pour y arriver. Et en fait, ce qui est génial dans cette expérience du design sprint, c'est qu'effectivement, la plupart du temps, les gens se révèlent être, enfin, se révèlent à eux-mêmes, en fait. face aux
Ouais.
situations dans lesquelles ils sont mis. Et c'est ça qui est assez fou. C'est que ils en ressortent, mais c'est pour ça que l'après est très important dans le design sprint. C'est que grosso modo, tu as une émulsion incroyable, tu vois, au moment où tu te focuses sur les sujets, t'es vraiment à fond dedans. Et puis après, tu sors de là et tu te dis, putain, c'était bien cool, mais du coup, c'est quoi la suite? Mais en tout cas, ouais, ça les révèle vachement. Et souvent, je pense que c'est ça aussi qui est vendu, hein, d'ailleurs, dans ces formats-là. C'est le côté, tu vas aussi passer un moment. Qui est un moment d'introspection sur lequel tu vas à la fois te révéler aux yeux des autres, mais tu vas aussi te révéler à toi-même, tu vois.
Hyper intéressant. Si pour continuer un tout petit peu sur ça, si pour les indépendants qui nous écoutent, s'il y avait un truc duquel on pourrait s'inspirer de cette approche ou de cette philosophie design thinking, tu vois, je sais pas si c'est des exercices que tu fais avec tes clients quand tu proposes ça dans ta formule en un jour ou dans les formules plus classiques, ou même d'ailleurs de toute l'approche UX que je trouve hyper intéressante là-dessus. À ton sens, c'est quoi les trucs qui seraient importants pour un indépendant à s'appliquer à soi-même sur son activité ou sur sa manière de construire une offre, comme c'est le truc qu'on a déjà commencé à creuser? S'il y a des trucs qui te viennent de te dire, bah, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé moi ou que je vois, je pourrais plus appliquer sur moi-même, t'as des exemples qui te viennent?
Ouais, j'ai notamment un exercice qui est une partie du design sprint que je trouve extrêmement intéressante pour générer en fait un univers positif, enfin une direction positive au sujet, quel qu'il soit. C'est l'exercice qui s'appelle How might we? Donc comment pourrait-on? Et en fait, c'est un exercice qui consiste à partir d'un problème et en fait le reformuler pour plutôt le transformer en opportunité. Et en fait, cet exercice-là, je le trouve génial parce qu'en fait, la plupart du temps, quand les experts parlent pendant le design sprint, ils vont te dire, ah ouais, mais là, du coup, alors on va avoir tel problème, et puis alors ça va pas marcher comme ça parce que telle raison. Et puis, et toi, t'es là, tu prends tes notes et tu prends tes notes en mode How might we? Donc, genre, tu reformules en fait tout ce que les personnes vont faire émerger comme problème. Et en fait, toi, t'as le rôle de reformuler finalement. Ces problèmes-là en opportunité. Donc, j'ai pas forcément d'exemple précis, mais si la personne dit, bah le problème ça va être ça, etc. Bah la formulation positive de ce truc-là, ça va être, bah comment pourrait-on faire en sorte que, et là on positionne les gens vers la solution plutôt que vers le problème. Et c'est comme quand on brainstorm. Et ça, c'est partout quand on est avec des équipes, etc. En fait, les gens ont la critique facile. Et donc, du coup, à chaque fois, c'est oui, mais. Et en fait, je pense qu'il faut essayer de quitter ça pour aller vers plus une formulation du style oui et. Tu vois. Sous-entendu, j'ai bien pris note de ce que tu as dit et je rajouterai quelque chose. Et en fait, ça évite tout de suite de tomber dans une critique facile du oui, mais tu te rends bien compte que ça sera pas possible vu les délais, tu vois, je dis n'importe quoi. Et du coup, peut-être que c'est la réponse à ça, ça serait la bonne réponse entre guillemets pour aller vers quelque chose de positif, ça serait oui. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être même trouver un moyen de le faire peut-être en version réduite,
Lights, quoi.
light, mais qui permet de tenir les délais, tu vois. Et là, tout de suite, tu vois, tu dis pas la même chose. Tu dis pas ah non, c'est impossible à cause des délais. Tu dis ah oui, c'est possible, mais peut-être qu'on va en faire juste la moitié ou juste un truc light dans les délais, tu vois. Et en fait, tu positionnes le truc comme une opportunité et pas comme un problème qui en fait ne fait que faire une accumulation et à la fin t'aboutis, tu vois, à un millefeuille de problèmes. Face auquel tu te retrouves, tu te dis, mais en fait, ouais, c'est pas jouable. Voilà, donc s'il y avait un truc, tu vois, dans le design sprint, mais qui dépasse ça, c'est-à-dire que c'est une philosophie après, c'est pas toujours facile hein, de se l'appliquer, mais je trouve ça intéressant de toujours réaxer les choses pour aller vers une solution ou une opportunité plutôt que de s'ancrer dans le problème.
Ouais, c'est clair. Ben, je trouve ça hyper intéressant. Je pense pour des indépendants qui sont sur des marchés compliqués, entre guillemets, surtout en ce moment, par exemple, avec le Covid. Un truc qui me vient en tête, par exemple, c'est les freelances qui bossent dans l'événementiel, qui devaient organiser des événements et tout. Ben, peut-être que c'est quelque chose qu'ils peuvent apporter à leurs clients. Imagine quelqu'un qui voulait faire un événement et qui, du coup, peut pas le faire. Une question de comment pourrait-on qui serait intéressante, c'est qui me vient, c'est comment pourrait-on faire vivre une expérience tout aussi chouettes de rencontres sans pour autant que ce soit en présentiel.
Ouais.
Et là, du coup, effectivement, comme tu le dis, je trouve ça te tourne vers tu cherches des réponses plutôt que t'es face au mur de ben voilà, pas plus faire des trucs en présentiel, c'est fini.
Mais il y a un sujet quand même qu'il faut, enfin, il faut relativiser ça quand même dans une certaine mesure parce que en fait, transformer le problème ou en tout cas le point problématique qui provient toujours d'une critique qui elle est extrêmement facile, tu vois, c'est toujours facile de dire oui mais ouais. Et non et pour ça machin et ça etc. En fait il faut le relativiser parce que le comment pourrait-on ou alors le oui et qui vise justement à aller vers une solution ou une opportunité, elle nécessite derrière beaucoup plus de travail parce qu'en fait dans l'exemple que tu donnes sur l'événementiel, ça veut dire oui, mais du coup comment je fais, tu vois. Et là du coup là tu es obligé de là tu vas bencher, là tu vas regarder les bonnes pratiques, tu vas voir ce qui se fait et donc en fait tout de suite ça découle
ça en digital etc., quoi.
Voilà, ça et du coup une to do et des contraintes etc., mais du coup ça nécessite derrière d'être prêt à aller faire le travail nécessaire pour mettre en place la solution, quoi.
Ouais, c'est clair. Après, je pense sur l'exemple qu'on a pris de l'événementiel, y a plus trop le choix de faire autrement maintenant.
Non.
Et du coup, c'est en mode faut y aller. Mais effectivement, après, c'est aussi une question de choix de est-ce qu'on est OK de prendre cette voie-là? Quelles sont les autres alternatives? Et tu continues de chercher des alternatives.
C'est ça.
Mais un truc qui me vient, du coup, par rapport à ça que tu disais, c'est le truc de la flexibilité, de prendre du recul sur nos offres et de pas y être trop accroché. Je me dis, en fait, c'est presque aussi un exercice qu'on peut faire avec nos clients. Genre, imaginons, tu proposes quelque chose à ton client et il y voit des manières pour lesquelles ça marchera pas sur cette offre-là par rapport à lui, etc., etc. Que l'espace de discussion avec son client pour trouver une manière de bosser ensemble devienne presque aussi cette réflexion de comment pourrait-on faire pour que la manière dont je travaille et l'offre que je te propose, ça rentre dans tes critères. Et moi, je vois la négociation un peu comme ça, tu vois. Genre un peu comme une danse de, on cherche à ce que chaque partie soit satisfait. Et des fois, il faut retransformer sa manière de faire en live ou y réfléchir. Des fois, le client, il a besoin de changer un peu ses attentes sur ce qu'il voulait absolument que tu fasses au début. Je l'ai vécu un peu récemment, moi, sur ma première offre de coaching individuel. J'étais parti sur des propositions d'accompagnement à 6 mois.
Okay.
Et la personne en face m'a dit, moi j'aimerais bien si on pouvait trouver une manière de faire sur 1 an, mais avec des temps de pause et que du coup il y ait 6 mois de coaching, mais ce soit étalé sur 1 an. Et j'avais pas prévu ça à la base, et du coup j'avais pas l'idée du truc. Et on est rentré dans une espèce de discussion où je lui ai dit, imagine ton coaching idéal et dis-moi ce à quoi ça ressemble. Moi de mon côté, je vais regarder comment je peux organiser ça. Et on est rentré dans ce truc de discussion de, on cherche la bonne formule qui correspond à tout le monde. Et c'était hyper intéressant comme exercice parce que du coup, on était vraiment en collaboration pour construire l'offre parfaite autant pour la personne que pour moi. Et j'ai trouvé ça hyper plaisant et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant d'appliquer ça sur toutes nos négociations avec nos clients si on est arrivé à le faire et comment est-ce qu'on peut arriver à le faire. Et enfin voilà, c'est un truc auquel j'ai réfléchi en ce moment. Je trouve ça plutôt, plutôt cool comme exo.
Ouais, carrément, je trouve ça bien et ça rejoint je trouve que c'est une bonne posture et ça rejoint la réflexion qu'on avait tout à l'heure de dire finalement c'est assez complexe parfois, tu vois, de tisser des liens avec des clients au-delà de l'aspect commanditaire, prestataire.
Presta.
Tu vois, dans cette relation-là qui est parfois un peu chiante, hein, faut bien le dire. Et justement, je trouve que c'est un bon moyen de créer une relation, de créer de la confiance. Et en fait, déjà, de créer de la valeur parce que, en fait, dans ce que tu dis là et dans l'exemple que tu prends, je trouve qu'il y a un côté, tu te dévoues. Enfin, tu vois, tu te mets vraiment, en fait, sur le sujet avec la personne. Parce que tu aurais très bien pu lui dire, va chier, moi, c'est
moi, je fais comme
moi,
ça, désolé.
Et terminé, tu vois. Et là, du coup, ça veut dire que tu t'accroches vraiment à ton offre telle que tu l'as définie. Alors que justement, en disant, on va prendre le temps pour voir ce qui est possible de faire. C'est quoi ton plan idéal? Moi, comment je peux l'adapter? Et en fait, déjà, rien que d'avoir cette posture, ça met le client dans une... tu vois, ça le rassure vachement, à mon avis, parce qu'il se dit, c'est cool, cette personne a envie de bosser avec moi. Et en fait, en retour, elle devait se dire, moi, j'ai pas mal envie de bosser avec cette personne aussi, parce que je sens que voilà, Thomas, il est prêt à m'accompagner, mais du coup, il est prêt aussi à rechallenger la proposition qu'il a faite, non pas en l'abaissant, mais en trouvant, tu vois, le juste milieu qui permet que tout le monde, effectivement, vive la relation qui va être créée, du mieux possible.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Et je pense que je vais lâcher une dernière petite notion sur la négociation que je trouve hyper importante, c'est
Vas-y,
que
j'adore.
si un des deux parties quitte une négociation en se sentant perdant, entre guillemets, la mission, elle part super mal, quoi. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ont peur des négociations et sont super contents quand on a signé un client sans négocier. C'est qu'en fait, on a l'impression que la négociation, ça doit être un combat qui est un gagnant et un perdant, et du coup, on a peur de perdre. Alors qu'à
C'est
mon
vrai.
sens, si tu sors d'une négo client et toi et ton client sont pas 100% satisfaits, mais en fait, tout le monde perd parce que soit ben, la mission se fait pas et du coup, tout le monde perd, soit la mission se fait, mais tu commences sur un mauvais sentiment, quoi. Soit le client, il a l'impression de s'être fait de payer trop par rapport à ce qui était OK pour lui ou de pas être dans la bonne méthode, soit l'indépendant ou le freelance, lui se sent un peu violé presque sur son TJM ou sur sa facturation et l'a pris un peu à contre-cœur et du coup tu vas pas donner le meilleur de toi dans ce cas-là, quoi.
Bah, c'est ça. Et là, du coup, tu retombes dans une posture de presta qui est bon, bah vas-y, je vais
Exactement.
dérouler, je vais faire le taf et puis terminer, je plie les gaules après, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que je pense qu'il faut voir ces moments-là, et notamment dans la négo, effectivement, comme plus effectivement une collaboration. Enfin, la collaboration, elle démarre déjà là, et c'est vrai que si les deux parties sont
Grave.
pas satisfaits ou à l'aise, c'est compliqué. Mais c'est pas simple, tu vois. Moi, j'ai des sujets, alors pas forcément sur le free, mais plutôt sur l'activité que j'ai à côté avec le studio de prod. On a, tu vois, des clients qui sont dans une posture, mais quoi qu'il arrive, ils seront dans une posture. Je suis commanditaire, t'es prestataire. Et fais-moi un devis, et puis je vais
Ouais.
regarder, et puis je vais trancher oui, non, sans même réfléchir, tu vois. Et en fait, très honnêtement, hein,
Ouais.
tu vois, y a même des clients que j'ai jamais relancés après avoir fait genre deux propales différentes, tu vois, sur 2, 3 semaines. Le temps qu'ils regardent, qu'ils reviennent, qu'ils disent, ah non, est-ce qu'on peut challenger? Ok, on challenge. Je fais une... et franchement, tu vois, ces clients-là, je les relance plus. Parce qu'en fait, pour moi, à la limite, tu acceptes la mission, on te la fait et on passe à autre chose. Mais du coup, moi, ça me met dans un mode, ça va être un projet chiant, tu vois.
Ouais.
Soit il revient vers moi et à la limite, bon, on en rediscute. Mais quoi qu'il arrive, tu vois, la posture est déjà chiante, quoi. Donc, du coup, ça
Ouais,
annonce
c'est clair.
effectivement rien de bon sur le projet si au démarrage. Mais c'est pas simple parce que du coup, tu as des gens qui sont vraiment dans ce mode-là. Et du coup, bah en fait là, tu sens que c'est le projet en mode bon bah tu vas le faire et puis ou pas, mais si tu le fais, tu sais que tu vas le faire et que tu vas passer à autre chose. Et c'est dommage quoi.
Ouais.
Mais c'est pour ça que je
C'est
pense
clair,
que
c'est dommage.
c'est hyper important d'en parler pour insuffler ça partout où on peut, pour que tu vois il y ait quelque chose de plus sain aussi qui ressorte de cette partie un peu négo qui est en fait déjà une forme de, tu vois, c'est le début de la relation. Et du coup, effectivement, si ça
Ouais.
part mal, grosso modo, t'es quasiment sûr que derrière, ça va être soit chiant,
Ouais.
soit ça va être une catastrophe.
Ben, je pense que pour se demander où est-ce que nous on a du pouvoir en tant qu'indépendants, parce que malheureusement tous vos clients, ceux qui nous écoutent, ne vont peut-être pas écouter cet épisode ou alors envoyer l'heure avant de faire le rendez-vous. Mais s'ils n'écoutent pas cet épisode, qu'est-ce que nous on peut faire, à mon sens, déjà incarner cette posture et le communiquer de manière transparente voilà, moi j'ai pas envie d'être votre prestataire, j'ai envie qu'on collabore, qu'on réfléchisse ensemble, qu'on co-construise notre manière de travailler et qu'on soit dans ce niveau d'interaction. Et aussi dans le fait de, tu vois, je pense beaucoup trop d'indépendants, tu arrives en rendez-vous, tu te mets déjà en position d'infériorité avant même d'arriver. Et ça, clairement, je pense, ça se ressent et ça aide pas, quoi. Donc je pense que ça, c'est les deux trucs sur lesquels on peut travailler. Déjà, sa posture et son alignement pour pas se mettre soi-même en position d'infériorité. Et l'autre truc de se dire, ben voilà, si c'est ce que j'ai envie de vivre ces relations plus de collaboration et de co-création et d'imaginer les choses ensemble, bah, d'incarner ça dès le début et peut-être d'intégrer ça dans la manière dont je parle de ce que je fais, dans la manière dont je me pitch, dont je réfléchis à mes méthodes de travail, à mes offres, comme ce dont on parle depuis l'épisode. Et je pense que ça, c'est déjà des endroits où on a du pouvoir, quoi.
Ouais, carrément, carrément. Mais je pense qu'il faut plus avoir peur. Enfin, il faut même pas avoir peur, effectivement, de l'expliquer en fait,
Ouais.
parce que ça commence par là. Et d'ailleurs, en fait, une mauvaise négo, tu veux que je te dise, hein, enfin, mon sentiment, plus j'avance, une mauvaise négo, c'est une négo où à la fin, il y a eu des non-dits, tu vois, sur les intérêts des uns
Ouais,
des
grave.
autres, sur, et tu vois, et c'est à mon avis toute une histoire de communication. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que, à mon avis, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, et à mon avis, il faut pas hésiter à le partager, pas hésiter à le dire. Parce qu'en fait, si tu le dis pas, du coup, ça devient un non-dit. Et si à la fin de la négo, ça s'est pas bien passé, c'est qu'il y a eu des non-dits, tu vois. Et
Ouais.
j'ai un client, d'ailleurs, c'est rigolo, une fois, il me dit, non, mais écoute, Hugo, moi, je te dis, hein, de toute façon, s'il y a un doute, c'est qu'il y a un loup, tu vois. Et j'aimais bien, tu vois, cette punchline un peu rigolote. Et il me disait, non, et après, j'ai réfléchi et je me disais, mais oui, c'est vrai que s'il y a un doute, si on a un doute sur un truc qui est pas clair, une intention qui est pas bien dévoilée, etc., etc., c'est qu'il y a un loup, c'est qu'il y a un truc qui est pas net et qui va faire que le projet, à un moment donné, va pouvoir se tendre dans la relation, même dans le travail effectif, tu vois. Donc, ouais, je pense qu'il faut en parler. Il faut pas hésiter.
Bah, trop bien. J'invite tous les gens qui nous écoutent à en parler le plus tôt possible quand on le sent, du coup. Et je vais saisir l'opportunité de reprendre cette expression et arriver, du coup, sur les questions rituelles de fin d'épisode. Hugo, si à un moment donné dans ton aventure de freelance, il y a eu un loup, et ce que j'entends par loup, du coup, c'est une problématique, genre ta pire difficulté, ton plus gros challenge, ça a été quoi depuis que tu es indépendant?
Alors, c'est
Je sais pas
une.
si, je sais pas si, je sais pas si ça marche très bien la reprise de l'expression, mais on va
Non,
faire
si,
comme si
ça
c'était
marche.
passé.
Ouais, ça marche bien. Genre, un truc que t'aurais pas bien anticipé. Du coup, tu tombes un peu dans une galère.
Ouais.
Je pense que j'ai la chance de pas avoir eu trop de galères parce que j'en ai pas d'énormes qui me viennent où je me dis, ah ouais, non, là, je suis vraiment dans la merde. Tu vois, d'un point de vue projet, même relation, tout ça. Donc je dirais que j'ai de la chance de pas en avoir eu, mais je pense que en fait il faut aussi savoir créer le contexte de il y aura pas de galère. Et moi, je pense que je suis devenu, d'ailleurs par l'expérience que j'ai eue en agence notamment, je pense que je suis devenu un peu un parano du cadrage projet, je veux que les choses soient écrites noir sur blanc, je veux que tout soit clair et que il y ait justement pas de loup. Et en fait, je pense que c'est une attitude qui me demande pas mal d'énergie. Parce que ça nécessite de bien expliquer les choses, donc soit à l'écrit, soit à l'oral, mais du coup avec le bon ton pour pas frustrer ou pas, tu vois, dégrader une relation professionnelle. Et du coup, ça me prend pas mal d'énergie, mais je pense que je suis assez satisfait de la dépenser entre guillemets, parce que à date, ça m'a permis d'éviter qu'il y ait des trucs pas clairs, et du coup de me retrouver dans des galères pas possibles, avec, je dis n'importe quoi, hein, une mission interminable, un plan foireux, ou que sais-je, tu vois. Donc là,
Ouais.
comme ça, je dirais le pire truc qui a pu m'arriver, non, ouais, franchement, j'ai du mal à en trouver. Je suis assez peut-être chanceux, ou en tout cas je crée les contextes de la chance à ce niveau-là, mais j'ai pas,
Ouais.
ouais, d'énormes galères ou voilà, où j'ai eu du mal,
Je vais
quoi.
essayer de reformuler parce que moi, il y a un truc que j'ai en tête par rapport à ce que je connais un peu ton histoire et ton parcours, du coup, parce qu'on est potes en dehors de cet épisode. D'ailleurs,
Yes.
pendant cet épisode aussi, je sais pas pourquoi je dis que en dehors de l'épisode. Mais si je dis pas la pire galère, mais qu'est-ce qui t'a fait galérer? Ou un truc où c'était pas fluide, quoi. Et si t'arrives pas à trouver de réponse, je vais te proposer celle à laquelle je pense et on peut en parler.
Ok, non, alors j'ai pas forcément un exemple précis, mais en fait il y a quand même un truc qui me vient, et je pense que c'est des choses que tu as déjà abordées dans certains de tes épisodes, il me semble. C'est l'implication des clients, ou des gens avec qui tu travailles sur leur projet. Parce que à la base, malgré tout, même si on essaie depuis tout à l'heure de déconstruire le côté, t'as un commanditaire et puis t'as un prestat, à la base, c'est quand même quelqu'un qui a un projet qui veut le faire. Et je trouve que, même si je l'ai pas forcément trop vécu, mais il y a certains moments où, grosso modo, on a envie de te refiler le bébé. Et en fait, tu sens parfois les clients hyper désinvestis. Et du coup, en fait, toi, tu rames parce que tu passes ton temps à aller à la recherche de l'info, à te faire valider des trucs, parce qu'ils sont pas, soit pas du tout réactifs, soit en fait, ils en ont rien à faire parce que c'est pas du tout leur sujet principal. Mais toi, de ton côté, tu juges que c'est un truc important pour toi, tu vois. soit parce que c'est un gros
Ouais.
budget, soit parce que c'est un sujet cool et que du coup tu as envie de le valoriser pour la suite et du coup tu te dis bah celui-là il faut que je le fasse vraiment à 250% parce que c'est un enjeu incroyable. Mais donc ça, en tout cas, si je l'ai pas beaucoup vécu, je pense que c'est un truc qui me ferait vraiment chier, c'est de sentir que j'ai quelqu'un en face de moi qui est pas du tout du coup dans la collaboration, mais qui est encore moins dans la coopération, tu vois. C'est-à-dire que qui donne pas du tout de billes pour faire avancer le sujet, et du coup en fait ça crée les conditions d'un rendu ou d'une mission qui sera pas satisfaisante. C'est-à-dire que le client sera toujours déçu, tu vois, de ce qu'il va voir parce qu'en fait lui-même s'est pas donné les moyens de te bah, de te faire avancer dans le bon sens, tu vois. Mais
Ouais,
vas-y,
c'est hyper.
je te laisse me dire la pire galère que j'ai eue.
Bah, c'est pas la pire galère que t'as eue, mais c'est des discussions qu'on a souvent eues tous les deux parce que je pense on a un peu un même fonctionnement naturel là-dessus qui est d'avoir plein d'idées, plein d'envies, plein de projets, 25 millions de trucs qu'on aimerait faire et mettre en place parce qu'on vit un peu dans cette posture de putain, quand tu entreprends des choses, il y a une abondance de potentiel face à toi. Et je sais que c'est un truc sur lequel t'as pas mal bossé et moi aussi, les derniers mois, j'ai à fond bossé là-dessus, c'est focus sur peu de choses mais aller loin dessus. Et je me souviens, genre là, c'était finalement assez récemment, tu étais à la fois sur ton projet de studio de production pour la vidéo, l'UX, tu étais en train de commenter une startup aussi sur une offre où tu t'étais associé. Et tu as tout un panel de choses comme moi, j'ai eu par le passé aussi, qui fait que bah, difficile de vraiment se focus sur tout ça. Et je me disais que ça, c'est un truc qui avait peut-être pu frustrer ou t'apporter des petits freins quoi, dans ton
Ouais,
activité.
alors effectivement, du coup, c'est en dehors d'une relation avec des gens sur un projet en particulier. C'est plus effectivement la posture et la double casquette que j'ai, qui est l'entrepreneuriat et le consulting en tant qu'indépendant. Et c'est vrai que tu as raison, ça a été un frein. Je pense d'ailleurs ça a été un frein. Ça a été un frein pour plusieurs raisons, mais notamment pour le développement de mon activité d'indépendant en UX. Ça a été un frein parce que j'avais pas forcément le temps ni l'énergie à mettre là-dedans pour la développer. Donc du coup, effectivement, j'avais à un certain moment des missions, mais elles étaient un peu rares et elles n'étaient pas toujours hyper stimulantes. Et effectivement, d'ailleurs, 2020, je pense que c'est aussi la grande leçon de cette année, c'est de se dire qu'effectivement, vaut mieux faire moins de choses, mais de les faire mieux et surtout de les amener plus loin. Et en fait, là, je le vois effectivement. J'ai arrêté certains projets pour me focus du coup sur à la fois le studio de prod Engaichi Studio et mon activité de free en UX. Et en fait, je redécouvre en fait d'une certaine manière le plaisir que c'est de pouvoir avoir du temps pour se focus sur ces sujets-là, tu vois. Et l'avantage en fait, c'est que dans cette double casquette, moi, je peux la jauger plutôt pas mal parce que en fait le studio c'est en toile de fond, c'est une priorité, mais voilà, ça déroule. Et en fait le free, l'avantage c'est que je peux le jauger, c'est-à-dire que je vois à peu près le temps qu'une mission va me prendre, je vois le contexte dans lequel ça va être fait, je me dis vu les projets qu'on a côté studio, tu vois, est-ce que c'est jouable, oui, non, en ce moment c'est jouable, ça passe bien. Quand je sens que côté studio il va y avoir beaucoup trop de taf, parce qu'on monte aussi des projets au sein du studio, etc. Là, je me dis bon bah là, je vais lever le pied sur le freelance et comme ça, le truc se régule bien et en fait, ça me décharge beaucoup mentalement déjà. Donc ça, c'est salvateur, mais genre c'est incroyable quoi. C'est-à-dire que t'as plus ton cerveau qui est en surchauffe en mode t'as 40 000 trucs à penser. Et puis après, c'est aussi des choix stratégiques, c'est-à-dire que bah moi, j'ai préféré mettre l'accent sur ces deux projets-là entre guillemets, parce que pour moi, enfin, c'est des projets sur lesquels je suis vachement plus en accord avec moi-même et du coup je prends vachement plus de plaisir à le faire. Alors ça veut pas dire que notamment sur Nearby, donc la startup que j'avais intégrée à un moment donné, ça veut pas dire du tout que j'étais pas que je prenais pas de plaisir à le faire. Mais c'est juste que ça rajoutait effectivement une charge mentale, ça rajoutait du travail. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut trancher. Et vraiment, choisir, c'est renoncer. Parce qu'en fait, au moment où j'annonce que bah, j'arrête, bah, en fait, ça me fait mal au cœur. Parce que je me dis, putain, le projet est cool, il y avait une bonne équipe, ça me donnait envie.
Ouais.
Mais en fait, voilà, il y a un moment donné, il faut savoir renoncer, il faut savoir faire un choix, et faire un choix, c'est toujours abandonner quelque chose. Et voilà, et pour l'instant, c'est comme ça, et peut-être qu'un jour, je réintégrerai une start-up dans n'importe quel domaine, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis content d'avoir cette ligne directrice là maintenant, et c'est vrai que ça m'a pas mal pesé, donc en fait tu me connais quand même très bien parce que du coup
Un petit peu.
parce que non, parce que c'est vrai que d'un point de vue global, c'est ce truc là qui était pas simple à gérer, et
Ouais.
ouais.
Bah, la raison pour laquelle je voulais le partager, c'est que c'est mon expérience aussi, en fait. Genre, moi, c'est clairement. Tu vois, genre, là, j'ai pris la décision pour 2021, plus aucune mission branding. Et après, je me suis dit, je vais le faire sur 2021 et on verra ce qui se passe en 2022. Mais clairement, je me dis, si 2021 se passe très bien sans ça, je sais déjà que je reprendrai pas, entre guillemets, parce que, en fait, je suis arrivé à un stade où, comme là, ce que tu décrivais, je me suis fait l'exercice d'observer, quand je me mets au travail sur telle chose ou telle chose, où est-ce que mon énergie monte et où est-ce que mon énergie descend ou stagne. Et du coup, de prioriser les trucs où mon énergie monte et pas de me dire, bah, je me force à faire les autres trucs parce que, clairement, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant sur toutes les missions, et je viens d'en terminer une là, je prends du plaisir, mais c'est surtout hyper stimulant intellectuellement, et du coup c'est ça que j'adore, c'est ça me pousse à réfléchir, à me remettre en question sur des trucs, à apprendre des choses que je maîtrise pas du tout. Là par exemple, c'était un projet tout autour de la démocratie participative, démocratie citoyenne,
Ah,
c'était
c'est trop cool.
passionnant, c'était vraiment hyper cool, et en même temps, c'est pas là où je sens que si je laisse mon attention, mon intention et mon intellect naviguer naturellement, c'est pas vers ça que ça va. Ça va plus vers des sujets de connaissance de soi, d'accompagnement, de coaching, de ce genre de choses. Et c'est dans ça que je passe mon temps à bouffer des livres. Et du coup, je me suis dit, OK, en fait, pour aller
Là, tu
encore
peux
plus
beaucoup
loin et
plus,
aller au niveau où j'ai envie d'aller de profondeur sur ces sujets, faut que je me focus. Et du coup, bah, 2021, c'est plus de mission client et on se concentre à fond sur cette partie-là de mon activité.
ouais.
Et j'ai trop hâte de voir
Qu'est-ce
ce qui
que
va être
ça va donner,
possible. Et
ouais.
je sens déjà que ça me crée des poches de temps où je fais des choses que je devais faire depuis des mois et que j'ai jamais faites parce que, bah, pas le temps, parce que t'es dans la prod tout le temps, quoi.
C'est ça.
Du coup, je suis trop content de ça.
Ben, trop cool, c'est trop bien, et effectivement, vision partagée sur tout ce que tu dis là. Donc ouais,
Ouais.
il faut savoir choisir et se focus sur ce qui nous tient le plus à cœur.
Ouais, bah, je vais te challenger du coup, Hugo. Et la prochaine question rituelle de fin, c'est si tu étais face à Hugo qui démarre en indépendant, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais? Et du coup, bah, je t'invite à en donner un autre que celui de choisir.
C'est vrai que j'aurais tendance à dire d'aller tester plein de choses, parce que en fait, si je reprends mon expérience, tu vois, si on m'avait dit il y a 5 ans, ouais, un jour tu seras à la tête d'un studio de prod, je t'aurais dit non mais attends, moi j'ai jamais fait de la prod, tu vois. Et en fait, et aujourd'hui c'est le cas, tu vois. Et donc du coup, tout ça pour dire, je pense que je me serais dit, va tester des trucs, mais totalement différents. Enfin, encore plus différents que ce que j'ai testé, parce que j'ai quand même fait pas mal de choses différentes, mais je suis quand même resté cantonné à l'univers des médias, du digital, de la com, etc. Et là, je me serais peut-être dit, va tester un truc, mais qui a rien à voir, tu vois. Dans des secteurs qui ont rien à voir, etc. Juste pour voir, parce que je pense que dans le conseil d'avant qui était c'est cool de choisir ses combats, je pense que ce qui est surtout important avant de les choisir, c'est de connaître tous les combats que tu as à ta disposition, et en même temps tu vas me dire, ah oui, mais la vie t'offre une infinité de possibilités, donc du coup tout est possible, mais en tout cas, tu vois, par exemple, moi je pense que je me serais bien vu aller tester vraiment la profession de journaliste. Tu vois, c'est vraiment un truc qui m'aurait. Alors, je tends à le faire avec le studio quand on fait des reportages ou des choses comme ça. Donc, c'est génial parce que je m'épanouis sans pour autant avoir vraiment travaillé dans une rédaction, etc. Mais pour le coup, c'est un peu dommage. Je me dis, ah tiens, ça aurait été vraiment cool d'aller explorer ça. et de tester. Et ça se trouve, je me serais dit, ouais, c'est galère, ça me plaît pas. Ah ben non, en
Ouais.
fait, je me rends compte que non. Mais tant que tu l'as pas testé, tu peux pas savoir. Donc du coup, moi, je vois pas mal d'étudiants qui, d'étudiants, parce que comme je donne des cours aussi à Descartes, je les vois, ils sont tous en mode, putain. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup d'étudiants encore qui sont en mode, putain, il faut trouver une voie et si. Et voilà, et si lancer et
Et c'est
terminé,
maintenant qu'on
c'était
décide,
maintenant, tu
quoi.
vois, c'est ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, on a tellement de, tout est possible. Si à un moment donné tu veux renoncer à quelque chose,
C'est clair.
ça peut prendre du temps, mais tu peux le faire. Et donc du coup, ouais, c'est ça le conseil que j'aurais à donner au Hugo de il y a quelques années, c'est va tester des trucs dans lesquels t'es pas forcément compétent ou va voir comment ça se passe pour après te dire. Est-ce que t'es prêt à choisir du coup ce que t'as ce dans quoi t'as envie de te lancer quoi. Mais je regrette pas du tout hein, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, au contraire. Mais voilà, ce serait ça.
Ouais, mais c'est un conseil, je pense, qu'on peut aussi se garder pour le Hugo de maintenant, pour le Thomas de maintenant, pour tous les gens qui nous écoutent de
Bah ouais.
peu importe notre âge.
Tu
C'est,
me disais
je
tout à
pense,
l'heure.
on est dans un monde de multivie maintenant, tu vois.
Ah bah carrément, mais
Genre, on
que.
va changer et se réinventer tout le temps.
C'est sûr. Et d'ailleurs, moi, je suis en train de réfléchir aussi à l'après, tu vois. C'est-à-dire que je vais pas forcément faire tout ce que je fais en ce moment toute ma vie. Et du coup, je me dis, tiens, qu'est-ce qui me tenterait après, tu vois. Et j'ai déjà des idées hein, de ce qui me tenterait après, mais pour l'instant, c'est un peu vague, ou alors pas très bien, ouais, pas très bien défini. Donc, on attendra. Mais tu vois, faut se dire que tout est possible. Tu vois, je te vois me remontrer ta guitare que tu as achetée tout à l'heure. Et en fait, ça me fait
Ouais.
penser à mon père qui donne des cours de guitare et de basse. Et tu vois, lui, en cours, il a des personnes âgées, enfin des gens qui sont à la retraite. Et en fait, c'est fou, quoi. T'as des gens qui arrivent et qui sont là en mode, mais moi, j'ai toujours rêvé de faire de la guitare. J'ai jamais pris le temps de le faire parce que j'ai fait d'autres choix que celui-ci. Et maintenant que je suis à la
Ouais.
retraite, ben en fait, j'ai décidé de m'y mettre. Et en fait, ils sont en mode, ils passent 4 heures par jour à travailler leur guitare et ils sont hyper épanouis. Et tout ça pour dire qu'en fait,
C'est trop bien.
ils avaient ça en eux depuis très longtemps. Ils n'ont jamais pu le faire. Et en fait, si, à la fin, ils le font quand même, tu vois. Et je
Ouais.
pense que c'est ce qu'on disait, on a toute la vie pour faire tout un tas de choses. Donc, il faut aussi relativiser. Je pense que entreprendre. Ou être dans une posture de consultant freelance, c'est pas un sprint en fait, c'est un marathon qu'il faut, tu vois, il faut savoir s'économiser parce qu'en fait la vie elle est quand même assez longue dans la mesure où on se dit qu'on a une espérance de vie qui est autour de 80, 85 ans, tu vois, et que du coup en fait si on va jusque-là, il faut réfléchir à voilà à faire les choses en fonction des envies qu'on a. Mais qu'on va quand même pouvoir avoir le temps de réaliser pas mal de choses, quoi.
C'est clair. Et puis les grandes et belles choses de la vie se font sur du long terme et on construit rien du jour au lendemain, quoi. Rien n'est magique. Donc,
Mais d'ailleurs, c'est
clairement,
assez.
prenons notre temps.
Prenons notre temps, ouais, parce qu'en fait, c'est assez. Moi, je trouve ça, dans le monde d'ailleurs des startups et tout, je trouve ça assez. Moi, ça me rend fou d'entendre ces discours-là, tu vois. On voit tous les jours des levées de fonds où t'as. En fait. Il y a une espèce de starification, tu vois, des entrepreneurs qui fait que tu as l'impression que les mecs lèvent 50 millions parce qu'en fait, ils ont lancé la bonne idée il y a 3 mois, tu vois. Mais en vrai, cette situation-là n'arrive. Enfin, si tu regardes vraiment dans le fond des choses, ça n'arrive pas, tu vois, c'est pas possible. Et oui, il y en a
C'est
certains
clair.
qui ont peut-être réussi à faire ça, et tant mieux pour eux. Mais la réalité, la grande réalité, la grande majorité des gens, effectivement, ne construisent pas des choses exceptionnelles ou ambitieuses en 3 jours, tu vois.
Bien sûr.
Et donc, du coup, je pense que ouais, faut prendre le temps, choisir ses combats et aller tester pour vérifier que c'est bien cela qu'on a envie de prendre à bras le corps.
Trop cool. Et là, du coup, la dernière question, qui est sans doute ma préférée, c'est si tu avais une question à poser aux gens qui nous écoutent pour qu'ils prennent un temps pour réfléchir à leur activité et leur vie d'indépendant, ce serait quelle question?
C'est plus une réflexion qu'une question, mais est-ce que ça vous arrive parfois d'oublier la vie? Et en fait, c'est une question et une réflexion que j'ai parce que parfois je suis tellement passionné par ce que je fais d'un point de vue professionnel que j'en oublie l'à côté. Et c'est quelque chose d'ailleurs sur l'année 2020 sur lequel j'ai énormément, énormément travaillé. Enfin, je crois que tu vois aussi de quoi je parle d'un point de vue perso. Mais en fait, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai vachement évolué. Et maintenant, en fait, que je suis conscient que je passe, oui, beaucoup de temps à travailler parce que ça me passionne, etc. Mais en fait, que c'est pas que la vie, l'essentiel de la vie n'est pas là, tu vois. Et du coup, maintenant que j'ai cette réflexion-là en tête, en fait, je suis vachement plus en accord avec moi-même et je suis vachement plus alerte à ce qui se passe autour de moi, au moment que j'ai envie de prendre avec les gens que j'aime. Et donc, du coup, j'invite tout le monde à se poser cette question-là. Et si parfois, et si vous vous êtes pas demandé déjà si vous avez oublié en fait ce que c'était que l'essentiel de la vie, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en dehors de l'aspect professionnel, c'est qu'il y a un problème. Et qu'il faut se poser cette question-là, tu vois. Et je pense que
Trop bien.
ça t'est déjà arrivé de questionner ça, Thomas, parce que souvent je vois dans tes publications, etc., y a ça aussi qui revient de s'accorder des moments pour soi, en dehors du travail, en dehors de tout ce qu'il peut y avoir de stimulant là-dedans. Et de reprendre un peu de temps
C'est
pour
clair.
toi. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo et un peu paradoxal, c'est que du coup, j'en ai fait un projet. C'est le podcast que j'ai aussi, du coup, avec Claire, Chronique de l'infraordinaire, où on s'intéresse aux petites choses de la vie qu'on ne voit plus parce que justement, on est dans un flot d'activité, de stimulation. Et je pense que c'est intéressant enfin, c'est important de ne pas oublier de se reconnecter aux gens qu'on aime, de dégager du temps pour ne rien faire, pour observer ce qui nous entoure et puis profiter, quoi.
Ouais. Ben, un truc qui est hyper intéressant, je vais revenir dessus du coup, parce que je crois pas que je l'ai partagé encore aux auditeurs, mais c'est clairement un truc que j'ai vécu aussi, ce dont tu parles là. À un moment donné, j'ai eu la réflexion de quand je travaillais pas, je savais plus quoi faire de moi. Dans le sens où je pense que j'avais tellement été dans une bulle par rapport à tout ce qui me passionne, tout ce que j'ai envie de développer, tu sais, j'ai encore une grande vision de là où j'ai envie d'aller. Et quand je déconnectais et que je fermais mon ordi, il y a des fois où clairement je me posais la question de merde, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'était ultra perturbant. Genre, ça faisait vraiment peur d'être face à ça, de se dire, tu sais, en fait, la phrase qui tournait dans ma tête de le petit moi qui est à l'intérieur de moi qui me juge, elle me disait, t'as oublié comment faire autre chose que travailler. Et franchement, ça fait trop, enfin, moi, ça m'a vraiment fait peur quand j'étais tombé là-dedans. Et ça a demandé effectivement un travail de reconnexion à, OK, ben, en fait, qu'est-ce que j'aime faire quand je suis pas en train de bosser? C'est quoi les trucs où je prends du plaisir qui sont pas du travail? C'est quoi les endroits où j'ai pas d'objectif? Et de revenir dans juste le fait de être, tu vois. Pas le fait de faire tout le temps, mais dans le fait de être.
Non, mais là, c'est vrai qu'il y a une injonction. On a une injonction enfin, des injonctions qui sont très fortes autour de nous parce qu'on est hyper connecté, parce qu'on fait un travail qui est aussi une passion. Donc, c'est difficile hein, de décrocher. Mais par contre, c'est essentiel. Et d'ailleurs, je le vois là avec les différents confinements qu'on a vécu cette année. En ce moment, j'ai la réflexion justement de me dire, est-ce que t'es pas en train de justement basculer dans ce côté? Tu n'existes plus qu'à travers à travers le travail et je fais très attention à ça pour ne pas perdre le reste en fait parce que après ça devient vraiment triste.
Ouais, c'est clair. Bon, on va s'en tenir là, même si ça pourrait être une conversation à part entière, cette
Ouais.
conversation-là, mais
C'est clair.
faisons tous attention à ça, quoi. Mettons de la conscience sur le fait que le pro, c'est un seul de nos domaines de vie et il y en a tant d'autres à explorer avec plein de choses passionnantes à découvrir aussi. Donc, ne nous tenons pas qu'à ça.
Ouais.
Hugo, est-ce que j'envoie les gens
C'est
qui
ça.
veulent te suivre, venir discuter avec toi après cette conversation, je les envoie vers où?
Eh ben, grosso modo, une connexion LinkedIn, c'est pas mal. Sinon, j'ai aussi mon site hugobetelu.com et là, il y a toutes les infos sur moi, ce que je fais. Et puis, c'est aussi possible de me contacter par ce biais-là. Donc voilà.
Ok, top. Et je mettrai de toute façon tous les liens sur le site par rapport à ces choses-là. Mais je mentionne du coup aussi de nouveau ton podcast qui est top et qui a d'ailleurs été cité dans pas mal de magazines cool que j'aime bien. Et aussi ton projet Hangaishi Studio. Et pareil, je mettrai tous les liens sur le site. Donc si les gens veulent voir ton travail sur ces deux autres choses-là, ils pourront le retrouver.
Trop bien.
Bon, bah super. Merci beaucoup pour cette conversation, Hugo. C'était un vrai plaisir. Très, très content de notre temps ensemble.
Bah, merci à toi, Thomas. C'était très cool et content d'avoir pu partager tout ça avec toi.
Ouais, grave, c'était très chouette. Ciao ceux qui nous écoutent, merci.
Salut.
Tu en conviendras, cet épisode a été très riche et on a partagé beaucoup de choses avec Hugo. Du coup, je vais essayer de résumer en trois points importants ce que je garde personnellement en tête concernant ce sujet de la construction d'une offre. La première chose, c'est que une offre n'est jamais quelque chose de figé. Elle est constamment en phase de test, face au retour du marché, au retour de vos prospects, au retour de vos clients, dans l'objectif de la peaufiner et de l'améliorer pour qu'elle soit plus en résonance avec les vrais besoins de nos clients. Ensuite, une offre peut être autant le fond de ce que vous proposez, le fond de votre mission, mais aussi servir d'outil marketing qui vous permet de souligner votre expertise et vous ouvrir des portes que vous n'aviez pas soupçonnées auparavant, à condition de bien construire le marketing et l'identité autour de votre offre comme Hugo l'a fait. Et enfin, la troisième chose, c'est que une offre bien travaillée devient encore plus forte quand elle fait vivre une véritable expérience à vos clients, au-delà de la simple relation client-prestataire. Et j'adore cette réflexion de comment je fais vivre une vraie expérience à mes clients, et je t'invite vraiment à y réfléchir après cet épisode. Donc voilà, trois éléments auxquels tu peux réfléchir, actionnables pour ton activité dès maintenant. J'espère que ces éléments-là et tous les autres apprentissages de cet épisode d'ailleurs t'aideront à mettre davantage de conscience sur la conception et la création de ces offres. Mais si tu souhaites être davantage accompagné dans cette réflexion et être guidé pas à pas dans une méthodologie poussée qui te permet de mieux comprendre les besoins de tes clients et créer une offre unique pour y répondre, je suis très heureux de t'annoncer que les portes de ma formation Construire ses offres ouvrent de nouveau très prochainement. Si ça t'intéresse qu'on travaille ensemble, toi et moi, sur ce sujet, je t'invite à te rendre sur thomasburbidge.com/formation et rejoindre la liste d'attente qui te permettra de bénéficier d'un accès privilégié et de bonus spéciaux au moment où la formation réouvre. Et même si tu écoutes cet épisode dans le futur, je t'invite à faire la même chose pour être tenu au courant des prochaines promotions de la formation et de la même manière avoir accès à des choses spéciales que pour les gens de la liste d'attente. Sur ce, je n'ai plus qu'à te souhaiter une merveilleuse semaine et te dire à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye!